BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer.
Bonjour, bienvenue, c'est Intégral placement qui vous accompagne 2 heures durant, comme chaque jour, pour gérer au mieux votre patrimoine. Bonjour Guillaume.
Bonjour à tous.
Et on file rejoindre Antoine Larigauderi qui, lui, est installé au cœur du réacteur nucléaire d'Euronext, hein, à la tour de la Défense. Comment est-ce que ça se passe ce matin sur le marché, Antoine? On récupère quelques couleurs, mais ça semble un peu timide.
C'est pénible. Ça fait plusieurs fois que j'emploie ce terme-là, une heure après l'ouverture, hein, cette semaine, mais c'est globalement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que la tendance s'est retournée hier à Wall Street et on a eu vraiment une belle clôture, hein, des indices américains et notamment du Nasdaq. Hein. On avait la high-tech qui était vraiment en forme. On était parti pour rebondir de plus d'1% hein, sur les premiers calls d'avant-marché aux alentours des 8 heures. Puis au fur et à mesure que l'ouverture approchait, ben, les gains se sont réduits, puis ça a continué à se réduire après l'ouverture. Donc résultat des courses, on a un CAC 40 qui est en hausse mais de seulement 0,19% et on est sous les 5000 points d'ailleurs, 4990. Les volumes d'échanges sont pas très très élevés, on est encore aux alentours des 300 millions d'euros d'actions négociées. On a une hausse plus franche du côté de l'Eurostock 50 qui grimpe de 0,66% et ça c'est grâce au DAX à Francfort qui a une hausse nettement plus conséquente à plus 1,2%. Alors la principale explication de cette contre-performance du CAC 40, c'est qu'il n'y a pas SAP dedans. SAP s'est coté au DAX et SAP a publié de très bons résultats. Et c'est vrai qu'on a beau dire qu'on manque de grosses capitalisations techno en Europe, SAP en fait partie. Et là, les résultats étaient quand même très très bons. Donc le DAX à Francfort on a l'impact favorable. Maintenant, si on regarde les techno françaises, il y a quelques belles progressions hein, quand même. Capgemini plus 1,5%, on est à 103,30€. On a les semi-conducteurs tiens, qui sont très bien orientés. STMicro qui gagne 1,4% à 24,20. On a Soitec qui est leader des progressions du SBF 120 à plus 2,75. On a Atos qui est en hausse aussi, plus 0,8% à 77,52€. Mais enfin, globalement, on n'a pas d'influx positif de nature à changer quoi que ce soit à la progression du CAC 40 et donc on reste coincé là entre les 4980 et 5050 points. Vos analystes graphiques ont noté ces points du trading range. Pour l'instant, on ne fait pas grand-chose de plus. Alors, à noter quand même Kering qui est en hausse d'1,97%. C'est la plus forte hausse du CAC 40 à 501,60€. On a également parmi les titres actifs du jour le secteur du luxe de manière générale qui se détache bien puisque Hermès gagne 1,15% à 776,40€. On a LVMH plus 0,75 à 402,80€. En revanche, à la baisse, à noter la forte baisse de Biomérieux, hein, moins 5%, 127,40€ après publication du chiffre d'affaires semestriel et des prévisions qui restent très maussades et très liées de toute manière à la pandémie de Covid-19. Donc ça, c'est pas forcément du goût des investisseurs qui vendent le titre. On a aussi une baisse assez marquée d'Engie qui recule d'1,29% à 11,13€ après un abaissement de recommandation de Citigroup d'achat à neutre. Et puis, à noter le secteur de la distribution qui n'est pas forcément très très bien orienté non plus. Casino, moins 2,24€. On est à 29,63€. Ou Carrefour, moins 2,18€ à 13,24€. Les autres dynamiques à suivre aujourd'hui, c'est notamment une baisse du dollar. Ça, les vocambistes vous en parleront sans doute. On a, selon certains analystes, des positions à la vente sur les options dollars qui sont les plus élevées depuis 2018. Donc ça, il faudra suivre. Ça veut dire qu'il y aurait peut-être une baisse supérieure à la clé. L'euro-dollar, en tout cas, est bien remonté à 1,1335. Puis on le voit, l'or est toujours sur ses plus hauts de 8 ans. On est à 1812 $ l'once. Le CAC 40, donc, plus 0,19% en toute petite hausse à 4990 points.
Antoine Larigauderi, que l'on retrouve quotidiennement depuis la salle de contrôle d'Euronext à la Défense.
BFM Business, Intégral Placement, Pépite, Zepico.
Chaque matin, un gérant vous guide dans la côte parisienne pour dénicher des pépites, pour éviter aussi parfois des choses trappes que peut receler ce compartiment de la côte. Notre guide ce matin, c'est Bruno Gel. Bonjour Bruno.
Bonjour Cédric.
Vous nous répondez depuis les Midcap et vous nous proposez de jeter un œil intéressé sur LDLC.
Oui, LDLC qui est le leader en France de la distribution de pièces détachées informatiques surtout pour les joueurs qui veulent fabriquer eux-mêmes leur ordinateur. C'est une société qui fait à peu près 500 millions de chiffre d'affaires et qui aujourd'hui est en situation quasi monopolistique sur ce marché, qui est un peu différent de celui des distributeurs classiques comme Darty, Fnac, Amazon, etc. Alors pourquoi on s'intéresse à ce dossier spécifiquement maintenant ou depuis récemment? C'est qu'en fait, il y a eu un changement d'histoire complet. La société, depuis 2 ans, en fait, avait des énormes difficultés à faire de la croissance organique et à maintenir ses marges. L'EBITDA sur l'exercice qui s'est terminé il y a un an était quasiment à zéro. Et aujourd'hui, ils sont en passe de retrouver dès l'an prochain, en fait, un niveau de marge record qu'ils n'avaient jamais atteint. Alors, comment ils ont fait? C'est une recovery qui s'est passée en 2 étapes. La première, c'est qu'ils ont fait le constat qu'ils avaient probablement mal calibré leurs prévisions de marché et qu'il fallait donc réduire les dépenses qui étaient plutôt axées sur un plan de développement agressif. Et le deuxième, c'est surtout qu'ils ont eu l'opportunité de racheter le site internet, enfin les actifs du site internet Top Achat à Rue du Commerce, Carrefour qui voulait s'en débarrasser finalement, ce qui leur a permis d'acquérir presque 100 millions de chiffres d'affaires et quasiment 10-12 millions d'EBITDA selon nos estimations, pour à peine un chèque de 3 millions d'euros. Donc c'est une opération qui est à la fois très très relutive d'un point de vue financier et qui leur permet de boucler cette recovery en termes de rentabilité et d'atteindre les 6% de marge d'EBITDA dès cette année, dès l'exercice en cours.
Du coup, en termes de valo, qu'est-ce que ça nous raconte?
Alors aujourd'hui, avec le cours d'aujourd'hui, sur la base des prévisions du management qui vise au moins 600 millions de chiffres d'affaires et 33 millions d'EBITDA, les multiples, c'est à peu près 5 fois l'EBITDA et on serait sur un PER, donc à peu près 10 fois le résultat net. Donc c'est faible, hein, c'est bien plus faible que les multiples de la cote. Après, il faut pas oublier que le secteur de la distribution, hein, que ce soit retail physique ou e-commerce, c'est pas le secteur le plus recherché par les investisseurs, donc ça paye forcément toujours moins cher que le reste de la cote. Mais bon, on pense qu'à moins de 10 fois le résultat net, il y a quand même encore un peu d'upside, d'autant que l'histoire est probablement pas terminée, puisque derrière, ils peuvent se poser en consolidateur du marché européen.
Mmh. Du coup, ce matin, quand on regarde le titre LDLC à la Bourse de Paris, il est à 24,80, en hausse de 0,4%. On vise combien?
Alors nous, on vise prudemment un petit 30 euros pour commencer. On pense que ça se justifierait sur la base de ce qui est déjà fait, visible, en prenant en compte bien cette recovery et puis l'acquisition de Top Achat et sa relativité. Mais on pense qu'après, il y a encore du potentiel au-delà de 30 euros à mesure que la société ferait du M&A.
Merci beaucoup Bruno Gel, donc depuis ID Midcap, cette recommandation d'achat sur LDLC, objectif 30 euros.
Le CAC 40 est toujours en hausse de 0,4%, on est pile sur la barre des 5000 points, plus forte hausse, Kering plus 2,3%, Lanterne Rouge, c'est Thalès aujourd'hui, moins 2,1%.
BFM Business, intégral placement, le point macro.
Avec, tiens, un nouveau chiffre intéressant à suivre aujourd'hui, un rendez-vous aussi pour l'Europe, l'Eurogroupe. On va en parler avec Christopher Nembic depuis Saxo Bank. Bonjour Christopher.
Bonjour Guillaume.
Bon, on va savoir qui va présider l'Eurogroupe. Premier enjeu qui pourrait nous en dire long d'ailleurs sur la volonté des Européens ou pas d'avancer vers une mutualisation des dettes, vers plus de solidarité. Ce sera un rendez-vous très intéressant de ce point de vue-là. Le nom du futur patron ou de la future patronne de l'Eurogroupe en dira long sur, en effet, les intentions d'un certain nombre de pays, notamment sur le plan franco-allemand qui a été proposé il y a quelques semaines. Et puis, on aura aussi des chiffres américains cet après-midi sur l'emploi. Par quoi on commence? Par l'emploi? Allez, les inscriptions hebdomadaires au chômage cet après-midi aux États-Unis?
Oui, c'est effectivement l'indicateur qui est le plus suivi, parce qu'en fait, c'est un peu un indicateur qui nous donne en temps réel l'état de l'économie américaine, hein, même si, bon, il faut être quand même prudent, c'est qu'il y a certains États qui ont des difficultés à processer finalement les demandes hebdomadaires au chômage, mais grosso modo, ça nous donne une bonne visibilité. On sait très bien qu'on va avoir encore probablement plus d'un million de revendications hebdomadaires, donc en cumul, puisque on sait, on serait sur la 16e semaine consécutive, on serait au-dessus d'un million, donc c'est un chiffre qui va être bien sûr un peu négatif. Dans le même temps, on sait très très bien qu'on n'aura pas une décrue qui sera extrêmement nette dans les prochaines semaines, parce que jusqu'au 31 juillet, vous avez le dispositif très généreux qui a été mis en place pour faire face à la crise du Covid, avec des allocations chômage qui sont un peu bonifiées. Donc automatiquement, on ne s'attend pas à un remous particulier, mais c'est vrai que c'est notre indicateur un peu privilégié pour savoir un peu ce qui se passe sur l'économie américaine. Il faudra être prudent, par contre, parce qu'on sait très bien qu'on est sur l'économie américaine qui, depuis le début du mois de juillet, commence à se refermer de nouveau, notamment sur les grands cœurs économiques du fait du coronavirus. Donc, on va avoir quand même cette lecture. Il faudra être prudent en sachant que dans les prochaines semaines, probablement, on va avoir une dégradation très importante du marché du travail de nouveau.
En effet, ce sera l'un des indicateurs qui permettront d'anticiper aussi l'évolution de la consommation là-bas aux États-Unis, le chômage et la consommation, bien évidemment. En Europe, on le disait, cet Eurogroupe tout à l'heure, avec pour principal enjeu la nomination de son futur, sa future patronne.
Oui, patronne peut-être, effectivement, parce qu'on sait que la ministre espagnole est plutôt en tête de liste. C'est quelqu'un qui a une très très bonne expérience. Elle a longtemps travaillé au niveau des institutions européennes. C'est quelqu'un qui est indéniablement en ligne avec son pays, c'est-à-dire qu'elle souhaite davantage de mutualisation au niveau de la dette, davantage de solidarité. Donc ça pourrait être aussi un signal fort, mais si dans le même temps, on sait très bien que le chef de l'Eurogroupe est plutôt une cheville ouvrière qu'un réel levier de pouvoir et d'influence, puisque finalement tout se décide au niveau du Conseil européen, qui d'ailleurs se réunit le 17 et 18 juillet. Mais malgré tout, ça peut être un signal assez positif envoyé aux pays du Sud, sachant que vous avez toujours ce débat qui n'est pas encore éclairci, puisqu'on a l'Eurogroupe, vous avez demain aussi l'Ecofin, donc ministre des Finances et de l'Économie de l'ensemble des pays de l'Union européenne, pour débattre encore de ce fameux plan de relance. On sait qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de divergences, pas tant sur la taille, mais sur la composition et sur, bien sûr, les conditions d'attribution des fonds. Donc c'est aussi un long processus qui peut-être devrait parvenir à un accord intérimaire d'ici donc le 17-18 juillet, en tout cas dans le scénario optimiste.
Si tout se passe bien, parce que certains pays montrent en effet leur volonté de faire avancer les choses, et puis d'autres un peu moins, la Hongrie notamment, Viktor Orban, oui, qui s'est exprimé ces dernières heures et qui laisse d'ailleurs entendre qu'il n'y aura sans doute pas d'accord avant la fin de l'année entre États européens sur justement ce mécanisme de solidarité qui pourrait voir le jour.
Oui, vous avez des blocages qui sont assez importants, et c'est tout le problème au niveau du Conseil européen sur ce type de décision, c'est l'unanimité. Donc si d'un pays, vous évoquez la Hongrie, ça pourrait être tout aussi bien les Pays-Bas qui peuvent bloquer, sachant que chacun a son propre agenda. La Hongrie, elle, notamment pour agenda d'éviter de voir une baisse des fonds européens dans le cadre du nouveau budget. Donc elle peut tout à fait miser en essayant de faire de blocage sur le fonds de relance. Donc automatiquement, c'est très très compliqué. Finalement, l'agenda qui est de dire accord intermédiaire la semaine prochaine, c'est un peu l'agenda d'Angela Merkel et on va dire de la France. Mais vous avez effectivement des voix dissonantes, peut-être plus réalistes d'ailleurs, qui nous parlent. Il faudrait une réunion supplémentaire en août et éventuellement ça pourrait courir jusqu'à l'automne prochain. Et éventuellement aussi court-circuiter en même temps les négociations sur le Brexit, puisque ça arrivera au mois d'octobre assez rapidement pour trouver un accord. Donc vous avez un calendrier qui est très très compliqué, et surtout ça pose toujours ce problème de décision au niveau du Conseil européen. L'unanimité n'est probablement pas le bon levier sur ce pour quand on souhaite réagir rapidement à une crise.
Merci. Christopher Nembic nous accompagnait depuis Saxo Bank. On va suivre cet Eurogroupe déjà dans la journée aujourd'hui. Ce sera une première étape et peut-être une première indication sur l'état, l'engagement potentiel des Européens sur ces nouvelles solidarités souhaitées par un certain nombre de pays qu'on verra peut-être de plus en plus nombreux. Et puis on suivra aussi cet après-midi les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Cédric.
Le marché parisien, 4996 points. Il progresse très modestement de 0,3%. Nous, tout de suite, on parle immobilier.
BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO.
Marie-Cœur de Roy, bonjour. Faut-il imaginer un transfert d'activité de la part des entreprises quittant Paris pour aller en région?
C'est une vraie question. Après le coronavirus, on a tous commencé à regarder notre stratégie immobilière, les particuliers comme les entreprises. Et donc, c'est cette question.
Est-ce l'un que finalement... ne pouvant aller sans l'autre, a priori.
Ouais, souvent. D'ailleurs, vous allez voir que là, l'étude dont je vais vous parler, effectivement, elle parle à la fois des entreprises et des salariés de ces entreprises qui réfléchissent donc à transférer tout ou partie de leur activité en région. Et donc, c'est une étude du cabinet de conseil en immobilier Arthur Lloyd qui est assez intéressante sur le sujet. En fait, ils se sont penchés sur toutes les villes qui se trouvent à moins de 2 heures de Paris, parce que l'idée, ce serait par exemple de garder son siège social à Paris et puis d'avoir des succursales un peu partout en province. Donc, l'idée, c'est donc de regarder ces villes à moins de 2 heures de Paris, soit en train, soit en voiture, et de se dire quelles économies potentielles, moi, en tant qu'entreprise, je vais pouvoir faire sur mes coûts immobiliers, et quelles économies potentielles vont pouvoir faire aussi mes salariés. Alors, d'abord, sur les particuliers, les salariés, évidemment, les économies sont considérables. Alors, on regarde l'exemple type d'un 60 mètres carrés à Paris. Bon, voilà, vous en avez pour environ 615 000 euros. Si vous voulez vous offrir un 60 mètres carrés à Paris, ça fait quand même relativement cher. Et surtout, la différence est spectaculaire quand on part en région, notamment, bah, par exemple, à Lyon, 60 mètres carrés, ça vous coûtera que 270 000 euros à Lyon, 260 000 à Bordeaux et même 130 000 à Caen. Ces trois villes dont je viens de vous parler, bah, elles sont précisément à 2 heures de Paris en TGV.
Donc, des économies pour les salariés, mais évidemment pour les entreprises aussi.
Bah oui, parce que l'enjeu, il est là aussi. C'est-à-dire que c'est un double effet assez intéressant, à la fois pour les salariés et pour les entreprises. Là aussi, on va regarder la comparaison. Et forcément, quand on compare Paris aux autres, bah, ça fait mal, ou plutôt ça fait du bien si on déménage. Là, je vais regarder les loyers des bureaux à Paris. Donc, quand on regarde le triangle d'or parisien, on est à 860 euros par mètre carré par an. Même à La Défense, où c'est relativement moins cher, on est à 550 euros par mètre carré et par an. Voilà, vous voyez à peu près les niveaux. Et si vous partez du côté de Lille, Rennes ou Nantes, on est autour de 200-250 euros. Enfin, vous voyez juste la différence. On plafonne même à 150 euros dans des villes comme Orléans, Tours ou Reims. Ce qui veut dire, j'ai fait mes petits calculs et pourtant je ne suis pas très très forte, ça veut dire que vous allez pouvoir diviser, en tant qu'entreprise, diviser par 6 le coût immobilier pour votre entreprise si vous partez en province. Et c'est pareil pour les particuliers s'ils veulent devenir propriétaires.
Et le nombre de vos clients? Non.
Mais non.
On rigole. Non, mais parce c'est de la provocation.
Et en plus, c'est à ce point faux qu'en fait, cette tendance du départ et des gens et des entreprises en province, elle n'est pas nouvelle en fait. Simplement, la crise du coronavirus va sans doute accélérer les choses. Mais là, justement, Arthur Lloyd rappelle une précédente étude qu'ils avaient faite et qui prouvait que quoi? Que depuis 2010, la population dans les villes de Nantes, Bordeaux, Toulouse et Montpellier avait augmenté 3 fois plus vite que la population dans le cadre du Grand Paris. Donc vous voyez que ce transfert de gens et d'entreprises dans des grandes villes de province, il a déjà commencé, ça va juste s'accélérer.
Oui, dans des grandes villes, et pas que dans des grandes villes d'ailleurs. Et c'est Philippe Audeau qui me faisait observer une fois qu'en Allemagne, ce fameux Mittelstand allemand, tout ce tissu de PME, ne quitte souvent pas son berceau d'origine et que ça fait du bien aussi à l'aménagement du territoire. Donc il n'y a pas que des économies à faire, il y a aussi probablement des bonnes choses à trouver dans cette idée-là.
Bien sûr.
Marie Cordon.
Chaque jour avec nous. Alors on parle beaucoup aussi de la poussée des écologistes au municipal, de leur volonté de lutter contre la bétonisation des villes, ce qui pourrait impacter bien sûr le secteur de la construction et du logement. À Grenoble par exemple, le nombre de permis de construire a chuté de près de
40%. Ouais.
Depuis que les Verts se sont emparés de cette ville de Grenoble. Le nombre de permis de construire, on le répète, a chuté de 40% à Grenoble depuis qu'Europe Écologie Les Verts a pris la ville. Quel impact pour l'investisseur? On va en parler avec vous, Christophe Capelli. Bonjour.
Bonjour.
L'un des promoteurs qui monte, bien sûr, Capelli. La poussée des Verts, donc, ça crée quelle perspective là, pour les investisseurs dans l'immobilier? À quoi est-ce qu'il faut s'attendre, d'après vous? Ils ont plein de qualités et puis ils posent aussi beaucoup de défis.
Ça crée un flou.
Ouais.
Un flou général. Je dirais déjà qu'en préambule, c'est quelque chose de très bien. L'écologie est nécessaire. L'écologie a besoin à un moment donné d'être poussée, alors que ce soit en termes de construction, en termes d'habitude, du quotidien. Là, ça nous génère un petit moment où on a une sorte de latence, où on se demande à quoi nous allons tous être mangés. Il y a un effet très étrange en fait en France actuellement, c'est dans les villes, et c'est majoritairement les grandes villes qui ont été
remportées,
donc ça veut dire sur un principe de limitons le béton, et puis parallèlement vous avez les villes en périphérie, où là on explique que il faut non plus construire, manger des surfaces artificiables, des champs, donc vous avez un drôle de phénomène, c'est que vous avez une population croissante. Vous avez un besoin énorme. Quand on parle démographie, parce que je pense que ça va être le vrai sujet de demain, la démographie. On est 66-67 millions d'habitants en France. On va passer à 75 millions en 2050, c'est que dans 30 ans. Il faut à peu près... chaque logement, c'est 2 personnes. Ça veut dire qu'on est en train de parler d'un besoin de plus de 3 millions de logements additionnels. On a besoin en France, jusqu'à présent, on a besoin de 500 000 logements par an au minimum. L'année dernière, on était arrivé à 400 000. Cette année, on va être à 300 000.
Oui, bien sûr.
Donc, on a un manque à gagner déjà de 200 000. C'est un besoin. C'est même pas un manque à gagner. C'est un besoin de 200 000 logements manquants. Et il nous faut encore plus de 100 à 150 000 de plus pour répondre à la croissance.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait construire 500 000 logements par an pour répondre à la croissance de la demande. Dans quelques années, ce sera plus 500 000 qu'il faudra, mais 650 000.
650. Et on en est à 300 aujourd'hui.
Oh là.
Donc, je dirais une chose pour les investisseurs. Allez vite. Achetez. C'est le moment. De toute façon, il manque de logements. Et les gens ont besoin de se loger. Après, c'est, vous avez la part de l'investisseur et puis la part de la résidence principale, où là, bah, on sent que de toute façon, il va se creuser un écart. Plus, à un moment donné, vous avez une raréfaction du bien, plus les prix vont monter. Et ça, c'est un vrai, vrai sujet.
Et c'est ce que vous prévoyez d'autant plus avec des grandes agglomérations passées Europe Écologie Les Verts. Vous pensez que les prix de l'immobilier vont encore plus progresser parce qu'on va encore moins construire ?
Alors, c'est le risque. Alors, vous avez des villes où, bon, d'abord, que vous soyez vert ou d'un autre parti, pour beaucoup, sont des gens intelligents et qui répondent aussi à une demande locale. Il y a eu une demande
très parce que j'ai quand même une question, Christophe. Grenoble, c'est peut-être pas la ville la plus dynamique et où il y a le plus besoin de construire, non ? C'est une question que je pose tout à fait naïvement.
Il y a besoin de construire, puisque c'est une ville quand même où toute la nanotechnologie est présente. Vous avez quand même vous avez pas mal de très très belles...
Non, mais à comparer à Bordeaux, par exemple, où effectivement on sait qu'il y a des besoins de construction, on a vu en plus l'augmentation des prix à Bordeaux.
Mais parce que Bordeaux a créé le besoin de construction aussi, a créé,
non, mais bien
a reconstruit
sûr,
une attractivité.
Ce que je veux dire, c'est que toutes les villes ne se valent pas, et je suis bien d'accord sur le besoin de construire. Après, toutes les villes n'ont pas les mêmes besoins. Et c'est là où c'est intéressant ce que vous disiez sur l'évolution démographique de certaines villes. Il y a des villes qui continuent de construire alors que l'évolution démographique est négative. Donc, il y a quand même, enfin, faut faire dans la dentelle quand on fait de la construction. C'est pas juste placarder 500 000 constructions par an.
Ça peut pas être binaire. Vous avez parfaitement raison. En fait, il faut cibler. Bordeaux, ils envisagent de prendre de la hauteur. C'est-à-dire.
Ils envisageaient.
Oui, ils envisagent là, semble-t-il, la nouvelle mairie.
En plus.
Donc ça veut dire qu'ils ont quand même une réflexion de se dire, on va peut-être éviter que les gens sortent trop loin, qu'ils reviennent avec leur voiture, que ça crée des bouchons, de la pollution, des coûts pour les gens.
Donc plutôt que de l'étalement urbain, de la hauteur.
De la hauteur. Donc j'ai trouvé que la réflexion est extrêmement intelligente. Puisque c'est vrai que la particularité aussi de Bordeaux, c'est que c'est une ville qui est plutôt basse. Donc ils vont essayer de favoriser ça. Il faut qu'en fait les villes, à un moment donné, acceptent, ou, comment dirais-je, sont en adéquation avec leurs nouveaux administrés, puisqu'ils ont été quand même élus pour ça. Donc, il faut écouter les gens.
Bien sûr.
Et en parallèle, il faut imaginer une chose, c'est de se dire, mais si demain je ne construis plus, ça veut dire que forcément les gens vont sortir de la ville. S'ils sortent de la ville, comment est-ce qu'ils rentrent pour travailler ? Alors, est-ce que les entreprises vont se délocaliser ? C'est un vrai sujet intéressant. Nous, typiquement, on tente quelque chose sur un programme. Je ne sais pas si ça sera la bonne idée, mais on le tente. On s'est dit, les gens vont aller un peu sur le télétravail, mais pour moi, pas trop. C'était peut-être un jour par semaine. Alors, on va essayer de voir comment est-ce que, pour limiter les déplacements, les coûts, dans nos bâtiments qui auront un côté très éco-développement, on va créer une pièce de coworking dans les immeubles. Donc, on dépose notre premier permis de construire comme ça. Ouais. Deux immeubles, une pièce dans chaque bâtiment de coworking.
Et on est déjà dans la mixité d'usage, là.
Exactement. Et là, les gens vont pouvoir, peut-être un jour par semaine, faire du télétravail. Le télétravail, d'une certaine manière, c'est... alors, le mot anglais, je le trouve assez marrant, éco-friendly. C'est, voilà, c'est éco-responsable. C'est...
Sympa. C'est sympa.
Non, mais
on comprend. Le marketing aussi qu'on essaie de faire autour de ça. Mais bien sûr, ça répond à de véritables besoins. C'est l'immobilier qui se transforme et il faut vraiment l'encourager. C'est bon pour l'environnement. Et le fait de mixer les usages comme ça, ça permettra aussi sans doute de limiter le besoin de recourir au transport. Et c'est, finalement, c'est pas plus mal. Faire de son immeuble un village ou de son quartier un village, j'ai pas besoin d'avoir à aller beaucoup plus loin, limiter l'étalement urbain. Ce sont des pistes qui devraient, en effet, peut-être continuer de grandir, de monter en puissance selon les villes d'ailleurs. Hein, parce qu'il y a des grandes agglomérations où les écologistes seront pour la hauteur et d'autres où ils y seront absolument opposés. Ce sera intéressant de voir d'ailleurs leurs propres oppositions et on va suivre tout ça de très près.
Et où partiront leurs administrés dans ces cas-là ? S'ils refusent, où iront-ils ?
Il y a aussi une nouvelle ministre là, ça vous a pas échappé, nouvelle ministre déléguée au logement, Emmanuelle Wargon. La structure de son ministère, telle que les choses sont amoncelé, structuré, architecté, vous vous dites que la volonté du gouvernement en matière de logement, en matière d'immobilier, elle sera dans la continuité de ce qui a été fait ces dernières années, que Emmanuelle Wargon, ce sera Julien de Normandie, version fin de quinquennat, ou vous attendez à de nouvelles propositions là ?
Je pense qu'ils sont très, très conscients de l'impact du bâtiment dans l'économie générale. Et j'aime beaucoup une réflexion qui est menée, c'est de se dire l'écologie, la tech, c'est peut-être l'avenir aussi pour les emplois en France. Donc je pense qu'on peut mixer le tout. Vous avez des programmes qui peuvent être réfléchis et eux peuvent, comment dire, le ministère peut nous aider au maximum, les promoteurs, à essayer de rendre vertueux notre métier. Nous, demain, on a décidé avec mon frère qu'on va changer de dénomination, on ne veut plus être des promoteurs immobiliers. On a pris cette décision. on va essayer d'inventer un nouveau nom qui correspond réellement. Et c'est pas du marketing. Hein.
C'est pas du camouflage.
C'est pas du camouflage.
Un peu comme.
D'accord. C'est pas du Canada Dry. Non, j'insiste. C'est essayer de transformer au sein de notre entreprise la culture. Comment est-ce qu'on peut essayer de travailler dans un sens
alors,
vertueux?
Alors, vous serez quoi, Christophe, si vous êtes plus promoteur?
Créateur d'immobilier.
Oh, trop beau. Ouais. Voilà. On avait pensé éco-développeur. Ouais, moi
on
aussi.
En parlera hors antenne avec
moi aussi. Écoutez, on a pris une entreprise pour nous aider, mais l'idée c'est d'aller loin dans la démarche, c'est-à-dire que même en interne, on est en train de recruter des gens qui à un moment donné vont apprendre et nous apprendre à agir différemment parce que je le vois.
Et vous
les gens évoluent.
Et vous apprendre à construire moins cher quand même. Non mais franchement parce que
c'est un vrai sujet.
Oui, parce que le prix de l'immobilier augmente, le prix du neuf augmente aussi et plus on construit propre environnemental, compatible, etc., plus souvent c'est cher.
Oui.
Est-ce qu'on a des solutions face à ça? Est-ce que construire propre, c'est forcément construire cher et donc pour construire seulement pour ceux qui ont les moyens, pour les plus aisés, et puis les autres, ils iront voir ailleurs?
Si vous construisez tout vert, ça coûte une fortune. Si à un moment donné, on commence petit à petit à prendre des postes, on peut les optimiser. On a un exemple, on a fait un programme à Lille, 40 000 m² de plancher. On est parti du principe qu'il y avait un bâtiment existant, 20 000 on allait le rénover. 20 000 de rénovation par rapport à 20 000 de neuf, ça a un effet sur l'écosystème. En parallèle, on a décidé de mettre en place de l'économie circulaire, c'est-à-dire tout ce qu'on déconstruisait, on leur réutilisait les matériaux, on les réutilisait pour toutes les voiries, les réseaux et autres, pour limiter les déplacements des camions. Voilà. Je pense que c'est notre devoir à nous de travailler là-dessus. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on va recruter des gens chez nous qui vont nous apprendre.
Et puis de communiquer aussi, Christophe, parce que oui, c'est plus cher à l'achat au démarrage, mais après, il y a des économies d'énergie qui sont considérables et donc des économies sur les factures à long terme et même à moyen terme.
Dans les locataires.
Dans la durée, c'est vrai, mais à un moment, au début, quand on achète...
Ah non, au début, c'est juste plus cher, c'est clair.
Le chèque,
non, mais bien sûr.
Pour le moment, c'est
pas... Pour le moment,
c'est un bon coup sur la tête, puisque vous avez une différence. Là où il faut que les banques jouent le jeu, c'est qu'après, elles partent du principe que dans la vie de tous les jours, le budget, par exemple, énergie...
Bah, c'est ça, le sujet, il est plus sur le financement
exactement,
que sur le coût réel, en fait.
Exactement. Donc, quand vous avez des institutionnels qui viennent acheter, comme il y en a de plus en plus, eux, ils ont une réflexion à 10 ans et elle est purement financière. Donc, ils savent qu'il y a des moins d'impact, donc ils récupèrent. Ils calculent TRI. Quand vous avez un particulier, c'est plus compliqué.
Ouais. Merci beaucoup Christophe Capelli qui nous accompagnait aujourd'hui pour Capelli, donc qui va changer de nom, pas de nom de famille, hein, on a bien compris, mais vous ne serez plus promoteur. On va suivre ça de près. Ce sera intéressant de voir aussi comment l'immobilier essaie de transformer son image en même temps qu'il transformera ses méthodes. Merci beaucoup. Marie Cœur de Roy nous accompagne tous les jours pour nous accompagner.
Pour comme ça, voilà.
Elle nous accompagne pour faire du bruit.
Pour faire du bruit, voilà. Cédric adore quand je fais du bruit.
Le marché parisien, 4993 points, il progresse de 0,25%. Qu'est-ce que ça nous dit techniquement, graphiquement? On va voir tout ça avec nos traders dans un instant.
C'est vrai qu'elle est bruyante.
BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. BFM Business, 10h midi, l'émission 100% placement, intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer.
Et un nouveau coup d'œil à la séance du jour en direct, le CAC 40 tranquille, plus 0,19%. Jean Amar est avec nous, puis Bourse Direct. Bonjour Jean.
Bonjour.
On est autour des 5000 points, un petit peu en dessous là, 4990 points.
Oui, voilà. Oui, le marché hésite toujours hein, depuis quelques séances. Avec une actualité dominée par le Covid, bah, il plafonne. Le CAC 40 a beaucoup d'hésitations sur ces niveaux-là. On a vu hier aussi un petit retour en arrière, on s'est repris. Et puis ce matin, malgré la hausse de Wall Street hier, de l'Asie et du DAX, on a encore du mal à embrayer, à partir vers le haut, quoi. Les investisseurs sont toujours tiraillés entre les signaux encourageants de reprise économique et le regain d'inquiétude, sur la pandémie qui connaît une évolution incontrôlée aux États-Unis, mais aussi en Inde et en Australie. Une phase d'hésitation qui est aussi liée au manque de catalyseurs. Alors qu'on attend le plan européen qui est prévu, je crois, à la fin de la semaine prochaine. On attend aussi les résultats d'entreprise qui démarrent le 14 juillet avec les banques JP Morgan, Citigroup et Wells Fargo.
Un feu d'artifice pour le 14 juillet.
Oui, ça valait le coup d'interrompre. Oui, forcément, ça va être, je l'espère, un feu d'artifice parce que bon, on a mis la barre suffisamment bas pour être surpris par de bons résultats et de bonnes perspectives. En tous les cas, je l'espère. Comme ça, ça permettra au marché de repartir de l'avant, puisque graphiquement, la prudence est de mise. L'investisseur ne cède pas à la panique. Hein, depuis la sortie d'un triangle symétrique au cours de la séance du 2 juillet, CAC 40 continue d'évoluer en ligne de tendance haussière de moyen terme. On surveillera la borne du triangle située autour de 4880-890, qui offre un bon niveau d'entrée, un excellent ratio risque autour de ce niveau-là.
Ben voilà.
Oui, je pense. Hein, intéressant. Il faudra surveiller, par contre, un retour sous 4860-840. En clôture serait pas bon pour la tendance.
Les signaux techniques très clairs, limpides, d'accord, vus par Jean Amar, Bourse Direct avec nous régulièrement. Bonne journée et bonne séance, Jean. À bientôt.
Ouais, le CAC 40 à 4989 points qui progresse de 0,16%.
BFM Business, intégral placement, la polémique.
Avec Nicolas Dose. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Polémique sur les retraites, réforme des retraites. Ça faisait quelques mois qu'on n'en parlait plus. Elle revient, selon Jean Castex, en tout cas la réforme des retraites est toujours sur la table depuis le passage du Premier ministre. Hier sur BFM TV, on a une idée un peu plus précise du futur projet. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre?
Eh bien, ne dites plus la réforme des retraites, mais une réforme des retraites. C'est exactement le terme utilisé dans l'interview du président de la République pour la presse régionale. Donc, hors de question de ressortir la version initiale qui est complètement aujourd'hui radioactive. On va avoir des tensions sociales fortes à la rentrée. Enfin, on vient d'entendre les rappels d'actu. Il n'y a quasiment eu que des annonces dramatiques sur l'emploi, pas forcément qu'en France. Donc ça va être compliqué dans ces conditions. Ce n'est pas le moment d'attiser cette réforme qui, par certains aspects, était devenue irrationnelle dans les réactions qu'elle avait suscitées. Voilà.
Résultat, à quoi pense le Premier ministre quand il pense réforme des retraites?
Eh bien, on remet à plus tard le projet initial de réforme systémique. La retraite universelle à points public-privé, le 1 euro cotisé donne les mêmes droits à tout le monde, le grand projet de départ est reporté. Alors, reporté en politique, ça peut vouloir dire abandonner. C'est une façon d'abandonner quelque chose sans le dire. Et donc, on va retomber sur une bonne vieille réforme classique, paramétrique, pour des raisons purement financières. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux effectivement monter, et j'ai toujours mes quatre possibilités éternelles, et à part certains qui pensent que c'est en allant prendre l'argent des dividendes ou en faisant de l'ISF qu'on s'en sortira, il y a vraiment quatre vraies pistes et quatre vrais leviers paramétriques. Est-ce que je monte les cotisations? Ben, non, je ne vais pas le faire parce que j'alourdis le coût du travail et je vais appauvrir les actifs. Est-ce que je baisse le montant des pensions? Ah non, je ne vais pas le faire, je vais appauvrir les retraités, ça m'a fait les gilets jaunes, par faire la même erreur. Est-ce que je bouge l'âge légal de départ ou je ressuscite l'âge pivot? Le mot âge, le simple fait de le prononcer, c'est cramé. Et donc il ne reste plus qu'une seule solution, c'est la durée de cotisation. Or, il se trouve que l'allongement de la durée de cotisation est déjà inscrit dans une loi qui est déjà votée, une loi qui a été votée sous François Hollande, la loi Touraine. Donc il suffirait de reprendre cette loi Touraine, d'accélérer un peu le rythme de la loi, de ne pas allonger d'ici 2035, mais d'ici par exemple 2030 ou 2028, et on aurait comblé une petite partie du problème. Voilà globalement ce qui pourrait commencer à être présenté par le Premier ministre et Elisabeth Borne dans les premières réunions bilatérales avec les partenaires sociaux qui débutent aujourd'hui. Et puis il se dit aussi que dans la négociation, peut-être que le gouvernement va essayer quand même d'aller faire main basse sur les quelques 150 milliards d'excédents des caisses autonomes des régimes spéciaux. Ok, on va pas toucher à vos bornes d'âge, on va pas toucher à votre statut, mais il va falloir participer à l'effort et donc il est possible qu'on veuille essayer d'obtenir l'adhésion des syndicats pour qu'une partie de l'argent et des réserves accumulées par les caisses autonomes puisse être versée dans le régime général de manière à accélérer le retour à l'équilibre financier. C'est tout à fait possible, c'est pas sûr, mais c'est possible.
Est-ce que ça signifie qu'il n'y a plus de réforme des retraites?
Il n'y a plus la réforme des retraites. C'est clairement pas du tout la réforme initiale. Après, c'est pas non plus aberrant de considérer qu'il y a un choc financier. On avait commencé cette année avec une loi de finances de la Sécurité sociale qui prévoyait un trou pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'un peu moins de 3 milliards. Au moment où nous parlons, on est à moins 30. On est à 10 fois plus. Alors, phénomène très conjoncturel, ça va se régler en partie l'année prochaine avec la reprise, mais on est quand même devant un choc financier réel. Et franchement, le Premier ministre n'a pas vraiment le choix. Devant le risque social de la rentrée, les deux réformes socialement compliquées qui sont les retraites et l'assurance chômage, il n'a pas tellement le choix. Il faut évidemment les mettre entre parenthèses. Il n'y a pas photo aujourd'hui sur les priorités.
Hein. Nicolas Dose, c'est la polémique jour après jour. À demain, 10h37.
Un petit coup d'œil sur le CAC qui grignote 0,24%, 4993 points.
BFM Business avec vous.
Chaque heure à 40, Lorraine Goumeau nous rejoint en plateau pour aborder quelques questions, quelques thématiques qui sont dans l'air du temps en cette période de déconfinement et de reprise de l'activité. Lorraine, vous nous posez cette question. Avec la crise sanitaire, observe-t-on une hausse des tentatives de fraude?
Oui, c'est un de nos auditeurs qui pose cette question. Alors, est-ce qu'on va arriver à y répondre? En tout cas, on est avec Louis-David Magnin, qui est directeur chez Kroll, une société spécialisée dans le risque. Bonjour Louis-David.
On voulait bonjour
vous...
Lorraine.
Bonjour, bonjour. Alors, on voulait vous avoir votre analyse pour savoir si, effectivement, il y avait une hausse des fraudes, notamment pendant la période de confinement, mais aussi aujourd'hui, dans le sillage de cette crise sanitaire. Est-ce que, dans l'entreprise, on observe une hausse, notamment, des actes de délinquance financière? Commençons par ça.
Oui, malheureusement, c'est le propre des périodes de crise et de dislocation comme celle que nous venons de vivre avec le confinement, mais aussi que nous nous apprêtons à vivre à la rentrée avec la crise, les conséquences économiques, de voir des hausses de tentatives de fraude, fort heureusement pas toutes réussies, et de la forme de ces tentatives de fraude peuvent prendre.
Alors, vous me disiez, le premier domaine où on a pu observer les fautes, c'est le domaine du chômage partiel qui prête le flanc, on va dire, à plusieurs types d'opérations frauduleuses.
Oui, en effet, et malheureusement, puisque le chômage partiel, les mesures de chômage partiel partent d'une intention louable et très efficace de soutenir économiquement la population en ce temps de pandémie sanitaire. En revanche, dans la mesure où il s'agit d'un programme absolument massif avec aucun contrôle ou presque en amont et des règles qui sont définies de façon peut-être avec différentes interprétations, c'est sûr que ça a pu donner lieu à des tentatives de fraude ou d'abus ou tels que faire travailler des personnes malgré le fait qu'elles soient au chômage partiel, qui, elles, pouvaient être en arrêt maladie ou faire intervenir des sous-traitants alors que ce n'était pas le cas. Il faut se rappeler que ce système de chômage partiel est pour préserver l'emploi et pas pour préserver le chiffre d'affaires ou la marge. Et je pense qu'il y a pu y avoir certaines confusions à ce niveau-là.
Est-ce que vous pensez à d'autres fraudes au niveau peut-être des dirigeants ou des fonctions dirigeantes dans l'entreprise que vous avez pu observer?
Oui, alors malheureusement, on a vu un certain nombre de secteurs qui ont été impactés très durement par cette crise sanitaire et qui le seront encore. Et donc, certains dirigeants, pour sauver leur entreprise, pour la faire continuer, pour espérer un rebond, pourront être tentés d'avoir recours à des états financiers créatifs ou d'avoir recours à peut-être à des faillites frauduleuses, c'est-à-dire d'accélérer la période pendant laquelle on passe en faillite avant que la société soit rachetée, mais que malheureusement ses créanciers les créances ne soient pas honorées. Et enfin, il y a un aspect très important qui est celui de sociétés qui ont besoin d'argent frais, de capitaux frais, et qui pourraient être amenées à attirer parmi leurs actionnaires des fonds dont l'origine des capitaux n'est pas forcément prouvée. Et donc ça, c'est quelque chose auquel il faut être particulièrement attentif.
Oui, on pense notamment aux startups, peut-être dans les cadres de levée de fonds. Merci beaucoup, Louis-David Magnin, directeur chez Kroll, une société spécialiste dans l'analyse des risques.
Merci, Lorraine. On vous retrouve dans une heure, bien évidemment, pour d'autres questions. C'est BFM Business avec vous.
BFM Business avec vous. Retrouvez toutes nos réponses à vos questions sur bfmbusiness.com. BFM Business, intégral placement, idée de placement.
Et régulièrement, on vous propose de diversifier vos investissements, pourquoi pas en vous faisant plaisir, les placements plaisir parmi lesquels les œuvres d'art, les voitures de collection, pourquoi pas investir aussi dans le vin. Thierry Godet vient de nous rejoindre, le président de Cavissima. Bonjour Thierry.
Bonjour Guillaume, bonjour Cédric.
Et on va évoquer, les primeurs 2019, puisqu'on est encore dans la période de dégustation là Thierry, on est dedans?
Alors, la période de dégustation est...
quasi terminé.
Ouais, quasi terminé. Enfin, surtout la période de lancement est terminée, puisque ça a été un lancement ultra rapide, ultra sportif, 20 jours contre généralement 50 jours. Alors c'est quoi ce lancement, cette campagne? Ce sont les châteaux qui mettent en vente pour la première fois le vin qui est encore dans les fûts, et le premier prix est un prix, le prix qu'ils donnent est un prix stratégique pour la santé, on va dire, du millésime, et puis aussi pour la santé de la distribution.
Ouais. Et qu'est-ce qui en ressort? Alors, quelles sont les premières impressions?
Oh, c'est une campagne historique. C'est une campagne extraordinaire dans la mesure où il y a eu des baisses significatives de prix. Alors, faut voir un peu le contexte. Hein. Impossibilité de faire venir les dégustateurs professionnels à Bordeaux. Donc, Bordeaux est allé vers les dégustateurs à coup de vidéoconférence. Des échantillons ont été envoyés. Et puis après, la campagne s'est orchestrée assez rapidement, contre toute attente, le 23 mai. Pontécanet sort son vin avec une réduction cinglante de plus de 30% de remise par rapport au précédent millésime. Et puis, tout ça s'enchaîne de façon ultra rapide et avec une discipline absolument incroyable.
Et c'est la première fois, c'est ça, depuis 2008 que Bordeaux baisse ses prix de façon significative.
Ouais, c'est la première fois. Alors, pour les lecteurs de BFM, enfin, pour les auditeurs, ceux qui regardent la télévision, ouais. Donc j'ai fait un petit relevé de prix sur Mouton Rothschild, parce que Mouton Rothschild, c'est quand même le haut du panier. Ce sont des gens, c'est un château qui obtient toujours les meilleures notes depuis 2015. On voit qu'en 2015, ces prix oscillaient à au-dessus de 500 euros, 550 euros, 586 euros sur le 2016. Il y a eu une petite baisse sur le 2017, et puis le prix est remonté tout de suite sur le 2018 aux alentours de 580 euros. Et là, on est sur une mise en marché à 402 euros, donc là aussi une baisse de 31%.
Bon, donc peut-être de bonnes affaires à réaliser autour de ces primeurs 2019, de ce millésime qui sera vendu au rabais, c'est ça l'histoire?
Ah, c'est une véritable aubaine et opportunité pour, d'une part, tous ceux qui veulent remplir à nouveau leur cave, parce que le millésime est très très bon. Voilà, une des raisons pour lesquelles Bordeaux a baissé, c'est parce que maintenant Bordeaux sait que le réchauffement climatique va leur servir et va leur permettre de faire des très très bons millésimes. Donc il est hors de question de faire comme dans les années précédentes, c'est-à-dire d'augmenter le prix à chaque fois qu'on a un grand millésime. La distribution, le négoce ne peut plus s'en satisfaire. Oui. Donc maintenant, il faut revenir à des niveaux de prix qui sont relativement bas, parce que la part de Bordeaux dans les échanges mondiaux est en train de baisser en valeur et en pourcentage, et Bordeaux frappe d'un grand coup sur la table en affichant des baisses spectaculaires. Alors oui, c'est une aubaine pour le consommateur, pour l'investisseur.
Oui. Et alors, c'est une concurrence accrue. Si Bordeaux se réveille ainsi en baissant ses prix et en frappant ainsi à grands coups, c'est une concurrence accrue pour qui, pour quel?
Pour les vins italiens, pour les vins de Bourgogne, pour les vins américains. L'idée étant aussi pour Bordeaux de conserver sa place aux États-Unis, sachant que Trump avait installé une taxe de 25% ad valorem.
Donc vous êtes en train d'essayer de nous faire croire qu'en baissant ses prix, la marque Bordeaux se revalorise.
Ah, la marque Bordeaux est en train de se revaloriser. La
même
marque
si
Bordeaux est résiliente. Ouais. Ah ben oui. Non, mais là, en fait, ce qu'il faut, c'est donner de la respiration au négoce, donner le goût aux consommateurs d'acheter des vins de Bordeaux. Ouais. Et le vin de Bordeaux en 2020, en 2019, n'a rien à voir avec le vin de Bordeaux de 2010. On est, j'ai eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, on est sur des vins de terroir, on est sur des vins qui offrent beaucoup plus de finesse.
Bordeaux passe à l'attaque. Donc, et justement, sur ces primeurs 2019, pour ceux qui pourraient y voir justement une opportunité d'investissement grâce à ces prix complètement décoté dont vous nous parlez. Quel type de vin, quel profil de vin est-ce qu'on va goûter sur le 2019?
Alors, le profil, c'est un millésime moderne, dans la mesure où c'est un vin qui peut se déguster à la fois jeune et va pouvoir se conserver de très très longues années. Ce qui caractérise ce millésime, c'est une fraîcheur et également des tanins extrêmement mûrs. C'est assez rare d'avoir finalement cette combinaison qui le rend tout à fait intéressant. Ce sont des vins dont le degré d'alcool reste maîtrisé malgré la sécheresse, et puis des tanins qui sont très soyeux. Il y a eu un miracle, il s'est produit une pluie aux alentours du 20 septembre, et cette pluie a permis de détacher, vous savez, la pulpe de la peau au moment de l'extraction. Et donc, finalement, le vin n'a pas eu besoin d'être travaillé. Les moûts n'ont pas eu besoin d'être travaillées. Bon. Et il en ressort un vin extrêmement soyeux, du cachemire.
Magnifique.
Un vrai bonheur.
Comment l'acheter? Qu'est-ce qu'il faut privilégier?
Alors, ce qu'il faut privilégier, alors, dans une optique d'investissement, il faut regarder. Alors, Cavissima a mis en place un système de 5 étoiles qui, finalement, va regarder le risque que prend l'investisseur. Donc, 4 étoiles, il y a un risque très faible. La majorité des vins qu'on a proposés avaient 4 étoiles cette année. D'accord. Parce que les prix sont vraiment très intéressants. Il faut regarder la baisse de prix par rapport à 2018. Mmh. Et puis, peut-être les notes des critiques. Voilà.
Mmh. Et alors, ça donne quoi? Il y a une recommandation, un domaine qu'on peut privilégier
pour... Oui, moi j'aime bien. J'ai trouvé que Giscourt était en...
Château Giscourt.
Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un positionnement prix extrêmement astucieux, 24% de baisse. Et puis surtout, ils ont les meilleures notes qu'ils n'ont jamais obtenues jusqu'à présent. Un grand œnologue est là pour conseiller l'équipe d'Alexander Van Beek. C'est une pure merveille.
Voilà quelques idées d'investissement dans le vin et profitez donc de cette opportunité manifestement qu'offrent les primeurs 2019. Thierry Godet nous accompagne régulièrement, le président de Cavissima.
Merci.
Merci Thierry, bon retour.
4000... Avec le micro, ce sera mieux. 4987 pour le CAC plus 0,12.
BFM Business, intégral placement, idée de placement.
Jean-François Filiatre est avec nous pour Marché Gagnant. Bonjour Jean-François.
Bonjour Cédric.
Votre sujet cette semaine?
Eh bien, au vu du premier semestre qu'on vient de passer, mon sujet du jour était tout trouvé. Alors j'aurais pu le titrer « Choupinette est-elle devenue intelligente ?» Mais j'ai pas eu envie de me faire accuser de sexisme et d'avoir les associations féministes sur le dos. Donc je vous propose plutôt comme thème « Les épargnants sont-ils enfin mis du plomb dans la tête ?»
Bon, peur des féministes mais pas peur des épargnants.
Ouais, on va être honnête, à mon grand âme, les associations d'épargnants sont quand même les grands absents du paysage de l'épargne. Donc, association féministe reste contre association d'épargnants, en bruit et en efficacité. Je vous le dis tout de go, les femmes l'emportent par chaos.
Pourquoi vous pensez que les épargnants deviennent plus raisonnables?
Attendez, je ne dis pas qu'ils deviennent, je m'interroge. Alors, vous savez, je suis très sensible aux notions de finances comportementales. Bref, nos comportements d'épargnants seraient dépendants d'un certain nombre de biais cognitifs, que je pourrais parfois appeler des troubles, et qui influencent nos attitudes.
Genre, j'achète une fois que ça a déjà monté.
Exactement. Ça, c'est le comportement moutonnier, c'est effectivement un classique. Vous savez que prendre une décision, c'est pas quelque chose de facile. On a plutôt tendance à se rappeler les événements récents plutôt que les événements anciens. On a également tendance à privilégier le fait qu'un mouvement se poursuive plutôt que de le remettre en cause. Et tout ça, ça aboutit à quoi? Ça aboutit au fait que, on regarde un marché monter. On se dit qu'il va continuer de monter. Et puis, on en achète. Et patatras. C'est le crack, d'où la fameuse blague des professionnels. Quand les particuliers arrivent sur le marché, c'est là que la hausse est finie.
Ouais. Sauf qu'on dit aussi l'inverse, qu'ils vendent souvent trop tard.
Ouais, et on dit effectivement que quand ça a baissé, les particuliers prennent peur et qu'ils vendent. Et c'est vrai, ou j'aurais presque tendance à dire, c'était vrai. Pourquoi? Parce qu'on a quelques chiffres qui devraient nous interpeller. L'autorité des marchés financiers a publié des chiffres sur le pourcentage d'actionnaires individuels. Il progresse à 6,9% cette année. Et donc, on constate quoi? Que la bourse a baissé et que l'actionnariat augmente. Alors, cela dit, sur ce chiffre-là, je le nuance quand même. Pourquoi? Parce que le chiffre, il a été fait dans une étude qui a été faite au mois de mars. C'était quand même le tout début de la baisse. Mmh. Et surtout, il prend en compte la mise sur le marché de la Française des Jeux l'an dernier.
Oui, mais enfin, il y a aussi une étude AMF dont on a pas mal parlé, qui a regardé les transactions et qui démontrait que pendant la crise, il y avait eu 150 000 nouveaux actionnaires.
Et sur notre sujet du jour, Cédric, vous avez raison, ce chiffre-là, il est beaucoup plus intéressant. Du coup, se pose une question, est-ce que la finance comportementale est aujourd'hui prise à contre-pied?
Et alors, vous avez une réponse si je vous la pose, cette question?
Déjà, à quoi opposer la finance comportementale? Qu'est-ce qu'on va mettre en face de cette finance où j'aurais tendance à dire qu'on se laisse un peu porter par le ressenti? Alors, chez Marché Gagnant, on privilégie une finance que je qualifierais de rationnelle, là où la tête a plus de valeur que l'instinct. Alors, a priori, rationnel, c'est moins fun. C'est pour ça que je viens toujours vous faire des chroniques en vous racontant des histoires avec le sourire et une chemise colorée. A priori, la finance rationnelle, c'est aussi plus compliqué. Et alors là, franchement, pas du tout. Je vais vous dire un truc. Tout le monde est, par exemple, capable de comprendre la chose suivante. Si vous investissez 1 000 euros sur une action et 5 000 euros sur une autre, vous prenez en fait 5 fois plus de risques financiers sur le second titre que sur le premier. Et si vous n'êtes pas en mesure de me justifier cette différence de traitement, je vous le dis,
il vaut mieux mettre 3000 euros sur chacun des deux titres.
Oui, c'est la fameuse équipondération des portefeuilles qui prévaut dans votre méthode marché gagnant, qui prévaut aussi sur la sélection intégrale placement.
Ouais, alors du coup, on se dit maintenant, la question c'est, est-ce que les épargnants sont devenus rationnels ? En fait, je vais vous dire, je ne le pense pas. La rationalité, ça aurait été de se dire que les marchés sont devenus pas chers, donc il y a une opportunité. Mais Cédric, avec la baisse, est-ce que les marchés sont devenus peu chers ?
Je sais pas, mais en tout cas, les cours ont quand même un peu baissé.
Et oui, les cours, c'est bien, vous le dites. Mais pardon, c'est qu'un élément du sujet. Combien a valu, nous qui sommes de vieux boursiers, combien a valu Orange lorsque le titre a été à ses sommets en 2000 ? Est-ce qu'on reverra un jour ce cours-là ? Bah, franchement, selon toute vraisemblance, avant notre départ à la retraite, on peut en douter tant le marché de la téléphonie a été bouleversé depuis cette époque. Le cours a baissé, certes, mais l'activité économique, elle a aussi fortement chuté. Et qu'elle constate par exemple l'autorité des marchés financiers dans sa cartographie des risques ? Eh bien, elle constate que le PER, c'est-à-dire le ratio cours-bénéfice du marché parisien, est aujourd'hui à 19,1 contre une moyenne à 17. Donc aujourd'hui, le marché est finalement plus cher qu'hier, même si les cours sont plus bas.
Malgré tout, il y a une apparente évolution du comportement des ménages.
Oui, et je pense en fait qu'il faut chercher son explication encore et toujours dans la finance comportementale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la finance comportementale, elle nous apprend qu'en fait, on est constamment pris en étau entre, d'un côté, notre peur de perdre et, d'un autre côté, notre envie de gagner. Le match, en fait, dans notre tête, il est incessant. Sauf que, peut-être, le rapport de force est en train de changer.
Vous voulez dire que dans les deux équipes, celle envie de gagner a signé pour un buteur ?
Ouais, en tout cas, le résultat est là. Alors, je pense en tout cas qu'il y a une idée à creuser. J'entends souvent dire, les professionnels du monde de l'épargne, dire les Français sont définitivement fâchés avec la bourse à cause de la multiplication des cracks au cours des 20 dernières années. 2000, 2008, enfin, on a eu une succession de crises très rapprochées. Et quand ils disent ça, je dis, ils ont peut-être vrai. Mais peut-être qu'on assiste en fait à l'effet strictement inverse. Ce que je vais appeler l'effet d'expérience. Pourquoi ? Parce que les cracks sont plus fréquents. Ben, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire qu'un crack, ça quitte l'univers de l'exceptionnel pour devenir dans l'univers du quotidien.
D'accord, donc on s'habitue finalement.
Donc il fait moins peur. Deuxième constat, est-ce qu'on se remet d'un crack ? Ben, la réponse est évidente. C'est oui, on se remet très vite aux États-Unis, un peu moins vite en Europe, mais on se remet toujours. Donc on se dit que le crack, ça donne plus de chances de gagner. Et c'est peut-être ça qui est en train de changer. Cela dit, il faut être honnête, si l'on est rationnel, j'irais même jusqu'à dire objectif, il faut reconnaître que le mouvement que l'on est en train de constater, il concerne une petite partie de la population.
C'est sûr.
C'est des centaines de milliers de personnes, c'est pas encore des millions.
Donc on va pouvoir continuer à parler de finances comportementales tranquillement.
Ouais, les professionnels vont pouvoir continuer à vous en parler tranquillement. Ils ont trouvé ça comme discours du moment et vous continuez à l'avoir.
Désabusé ou énervé ?
Non, en fait, derrière ce discours de la finance comportementale se cache le terme d'éducation et j'ai parfois tendance à dire qu'il s'agit de manipulation. Autrement dit, vous pouvez vous intéresser à la finance comportementale pour informer les individus. À partir de là, ils voient s'ils ont envie d'évoluer ou pas. Mais vous, votre job, c'est de leur avoir donné le bagage nécessaire dans la vie pour réussir. Mais vous pouvez aussi, en tant qu'acteur économique, parce que vous maîtrisez ces phénomènes de finance comportementale, les exploiter pour, entre guillemets, manipuler les épargnants. L'exemple typique, ce sont les options de gestion pilotée qui ont été mises en place sur les plans d'épargne retraite. On sait que les épargnants ont du mal à choisir. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On leur a mis d'office l'option qui était la plus favorable pour le système.
Bon, d'habitude, avec Marché Gagnant, vous avez toujours la solution qui va bien. Là, il nous reste moins de quelque chose, puisqu'on a déjà dépassé le temps. Rapidement, qu'est-ce qu'on propose ?
Moi, je voudrais qu'on essaie de s'intéresser aux effets positifs de l'expérience. Histoire basique, vous prenez un épargnant qui a fait un placement quelconque et qui gagne de l'argent. Cédric, qu'est-ce qu'il pense ?
Bah que j'ai gagné de l'argent, donc je suis bon.
Ok. En revanche, s'il perd, là, il se dit que le système qui est mauvais. On s'arroge le succès et en fait, on rejette l'échec sur l'autre.
Bien sûr.
Alors, la conséquence de ça, c'est qu'on va persévérer dans des placements sur lesquels on a eu des succès et on va écarter les autres. La conséquence patrimoniale de tout ça, c'est qu'on va avoir des concentrations majeures sur un certain nombre d'actifs. Je peux vous parler d'alimentation un quart de seconde ?
Un quart de seconde.
Ok. Qu'est-ce que vous avez fait avec vos enfants dès leur plus jeune âge ? Vous leur avez fait goûter un peu de tout pour leur permettre d'affirmer leur goût. Est-ce que c'est vrai ?
Oui.
Eh bien voilà. Eh bien vous savez, on aime être rationnel beaucoup plus que technique. Donc en fait, il faudrait que, il y a trois grandes familles de placements, immobilier, bourse et taux. Eh bien s'il vous en manque un ou deux sur lequel vous n'avez jamais investi. Profitez de l'été pour travailler un peu ces sujets-là. L'idée, c'est de voir...
Un cahier de vacances signé Jean-François Fillon.
L'idée, c'est de voir si on peut tester un peu. Il faut le faire soi-même. Et je vais vous dire pourquoi il faut le faire soi-même, parce que le système ne le fait pas. Parce que quand votre assureur vous dit... Si vous voulez accéder à mon fonds en euros, je vous impose de mettre 30 à 40% d'une été de compte. Franchement, quelle différence vous voyez avec les parents qui bouchent le nez du gamin en lui vociférant « tu vas aller bouffer ses poireaux ». Peut-être que mes méthodes, elles sont éducatives, elles sont peut-être un peu laxistes, mais en tout cas, je continue à les défendre.
Jean-François Filiatre, marché gagnant. On vous retrouve tout à l'heure, Jean-François. Il y a des questions de nos auditeurs.
Le CAC 40 toujours en hausse de 0,2% dans un instant, le face-à-face. Et dans la prochaine heure, on répondra à toutes vos questions avec Jean-François. Envoyez-les-nous sur notre site bfmbusiness.com.
BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement.